Bonjour Jean-Baptiste Durand.
Bonjour Yuri, bonjour Elisabeth.
On est sur la terrasse du Publicis pour ce Champs-Élysées Film Festival dont vous êtes le président du jury court format. Alors est-ce que ça comporte les courts et les moyens métrages ou c'est seulement les courts métrages?
Ouais, j'allais te couper au milieu de ta phrase pour dire courts et moyens.
Et voilà, comme quoi j'ai eu raison de finir.
Je suis resté délicat.
Comment est-ce que tu t'es retrouvé à être président de ces courts et moyens métrages? Et je serais intriguée de savoir ton lien au court métrage. C'est que tu en as réalisé plusieurs avant de faire ton long métrage. Est-ce que c'est un format dans lequel tu te sens bien?
Alors comment on m'a proposé d'être président, j'en ai aucune idée. J'ai juste reçu un mail un jour de Justine Lévesque qui m'a dit: est-ce que tu
ancienne
veux être
de l'émission?
Ok. Et elle m'a dit: est-ce que tu veux présider le jury? Moi président, c'est honorifique, mais je me sens pas président du tout. On est un jury de 5 et on est tous à égalité. Mais en tout cas, voilà, c'est Justine qui m'a proposé et j'ai dit oui.
Est-ce que tu peux nous rappeler qui fait également partie du jury cette année?
Alors, il y a Nance Laborde, il y a Ovidie, il y a Émilie Brisavoine et il y a Jimin Park.
Et qu'est-ce que tu recherches quand tu vois un court-métrage? Quelle est la première chose que tu cherches à déceler dans un film court?
Dans un film tout court, quel que soit le format. Je dirais si c'est le cœur qui parle, j'ai envie d'avoir une émotion quelconque. C'est-à-dire qu'il y a une guêpe autour du micro.
Il y a une guêpe autour de nous, c'est ça d'être à l'extérieur sur cette jolie terrasse.
Ouais, ça va. Tant qu'elle m'emmerde pas. Je recherche de l'émotion, en fait. Après, que ce soit du rire, une émotion intellectuelle, une émotion physique, une émotion... que ce soit le ventre, la tête ou le cœur, en tout cas, que ça m'impacte d'une certaine manière... Et après, c'est vrai que en tant que cinéaste moi-même, j'aime les gestes sincères. Ça, c'est hyper important pour moi de sentir qu'il y a une vraie nécessité quand tu vois un film que c'est habité, qu'il y a un point de vue et l'idée d'une radicalité, pas forcément plastique, mais d'une radicalité de cœur.
Ouais, du cœur. Et est-ce que c'est important, parce que c'est une question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est important de passer par l'exercice du court-métrage avant de réaliser un long-métrage?
J'ai du mal avec l'idée du court-métrage...
À différencier vraiment du long
dans Non, c'est même pas ça, dans sa globalité, c'est-à-dire le court-métrage, entre le court-métrage autoproduit, le truc que tu fais en deux jours, le truc que tu écris pendant 4 ans ou 3 ans avant d'avoir des financements, ça n'a juste rien à voir. Donc je pense que c'est hyper important de faire des films. Et évidemment, c'est plutôt court avant de faire du long, mais même dans tous les systèmes de production, de faire des films un peu plus avec des équipes qui vont... Enfin, de se chercher, en fait. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est beaucoup naviguer dans beaucoup de façons de faire du cinéma différentes.
Et toi, en faisant des cours, et c'est... je rebondis là-dessus, c'est un moment où tu as également rencontré les équipes avec lesquelles tu as continué de travailler, ou c'est un moment où tu as pu explorer aussi différents registres, tester différentes choses avant de passer au long?
Ça a été un laboratoire sous 1000 formes différentes. Ça a été un laboratoire esthétique, un laboratoire humain, un laboratoire même un miroir, c'est-à-dire comment moi je réagis à telle ou telle situation.
De gestion de plateau,
ouais, gestion des comédiens, gestion esthétique. Est-ce que je fais de l'impro? Est-ce que moi j'ai vraiment fait des films à plein de formes différentes en fait pour un peu me rencontrer. Et j'ai rencontré mes équipes, je te dirais presque pour l'essentiel en vrai, avant même de faire de réaliser. J'étais technicien et il y en a la moitié des équipiers, je les ai rencontrés, j'étais machinot, décorateur.
D'accord, parce qu'en fait, pour rappel, tu as commencé par les Beaux-Arts, et ensuite, tu es passé au cinéma, d'abord en tant que technicien, en effet, et ensuite, tu es passé réalisateur pour réaliser tes propres films.
En parallèle, mais oui, j'ai fait un peu technicien, et c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart des copains et des copines.
Et justement, alors on va parler de ton premier long métrage, Chien de la casse, que nous on avait vu et beaucoup apprécié chez Extérieur Nuit. Et tu parlais d'une nécessité. Alors je trouve que c'est un film qui, pour le coup, transpire vraiment la sincérité dont tu parles. Et je voulais savoir, du coup, quelle était la nécessité au départ de ce film? Est-ce que c'était ces deux personnages principaux, cette espèce d'amitié un peu toxique entre ces deux héros, celui qui parle beaucoup, qui fait des logorées, celui qui se tait? Est-ce que c'était raconter cette zone périurbaine, rurale, qu'on voit assez peu au cinéma? Qu'est-ce qui était à l'origine du geste?
Comme tu as dit, le geste, il était... la nécessité de faire ce film-là était corrélée presque au fait de faire du cinéma un jour. C'était si je fais pas Chien de la casse, je m'en fous de faire un film pour faire un film. J'aurais pas fait de film certainement. Et la nécessité, elle était, ouais, je pense, en numéro un, de raconter la vie d'un, la jeunesse de village périurbain. Je pense que c'était vraiment de saisir ça. J'avais l'impression de jamais m'être senti représenté au cinéma, en fait, d'avoir vécu une réalité que j'ai jamais vue à l'écran, ou alors de manière un peu caricaturée, ou par et du coup c'était ça. Et évidemment le geste de ouais, parler de... tu parles d'amitié toxique, mais je pense que c'est un... il y a qu'un seul mot en français pour exprimer quelque chose de protéiforme, mais parler d'amour, et c'est un amour qui prend la forme d'une amitié, mais je parle de l'amour dans son absolu, c'est aimer comment on aime les gens. Donc là, c'est de l'amitié. Après, bah, c'est un amour maladroit, donc qui devient toxique pour la relation. Mais c'est vraiment parler d'amour, donc là, pour le coup, d'amitié.
On a ces deux personnages masculins qui sont donc interprétés par Anthony Bajon et Raphaël Quénard. On a aussi Galatea Bellucci, j'ai toujours peur d'écorcher son nom, mais qui joue le rôle féminin. Et c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression que tu arrives effectivement aussi à toucher quelque chose de très sincère chez eux, c'est-à-dire qu'ils sont, on a l'impression en tout cas très proches de ce qu'ils sont dans la vraie vie tout en étant complètement des personnages. Et du coup j'étais assez curieuse de savoir le travail que tu as fait avec eux, notamment à quel moment ils ont été impliqués. C'est vrai que par exemple Raphaël Quénard, on a vraiment l'impression quasiment que les dialogues c'est lui, mais en fait j'imagine que c'est un travail entre vous. Donc comment ils ont été impliqués, voilà, enfin à quel moment et de quelle manière?
Bah ouais, alors les dialogues c'est même pas entre nous, les dialogues c'est moi et les personnages ils ont été impliqués, enfin je dis c'est moi, c'est à dire que en fait si un acteur joue bien on a l'impression que c'est lui qui a écrit ses dialogues, donc
c'est le plus beau résultat,
tant ouais, mieux, ça fait plaisir, mais ouais. Après du coup je remets les choses dans leur contexte,
l'église
c'est
au
un
du
film
village.
L'église au milieu du village, voilà, c'est l'expression est bienvenue. Non, c'est un film qui a été d'abord hyper écrit. Je tenais vraiment, après avoir justement expérimenté dans les cours, à avoir quelque chose qui respecte les dialogues au maximum, parce que ça fait partie de la dramaturgie sur ce film en l'occurrence.
C'est beaucoup, ça, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, c'est comme en effet beaucoup de scènes, de dialogues entre deux ou trois personnages et qui s'enchaînent comme ça un peu dans une sorte de torpeur où l'histoire va un peu lentement infuser à travers tout le film jusqu'à arriver à la séquence finale.
C'est ça. Donc ouais, le scénario a été écrit précisément et ensuite, de manière assez traditionnelle, j'ai fait un casting et ça a été un long processus de trouver les acteurs, et je tenais à avoir vraiment des acteurs qui soient capables d'incarner les personnages avec finesse, avec voilà, c'était des phrases assez écrites pour la plupart, c'est quand même un texte, c'est pas si facile à dire, et donc j'ai rencontré Raphaël Quénard qui correspondait merveilleusement au personnage que j'imaginais de Miralles, mais c'est vraiment un rôle de composition, en fait Raphaël le joue tellement bien qu'on se dit c'est lui dans la vie, putain j'espère pas, il est pas du tout, c'est pas du tout un écorché vif. C'est pas quelqu'un de tordu, il a rien de méchant. Miralles, la moitié du film, il parle pas, quand même. Même s'il parle beaucoup au début, on a cette sensation qu'il est volubile, mais en vrai, au bout de 40 minutes, il se tait. Oui. La façon de parler aussi de Miralles, c'est pas celle de Raphaël Quénard, qui est plus fleurie, qui est plus inventive. Miralles, il est plus dans la punchline, Raphaël, il est plus dans la métaphore. Donc, si on regarde un peu attentivement les interviews de Raphaël et le film, c'est pas la même plume. Et après, évidemment, qu'il y a eu des incursions de l'invention un peu des acteurs, notamment de Raphaël, mais c'était une espèce de méthode de travail. On était d'abord au texte, puis on réinvente un tout petit peu, mais sans s'écarter du phrasé du film. Et quand les scènes le nécessitaient, une petite carte blanche et après au montage, je venais rééquilibrer. Mais c'est plus dans chaque scène, elles sont à 80% écrites, et il y a des petites incursions comme d'improvisation. Mais voilà, du coup, j'ai l'impression que c'est assez classique finalement la façon dont voilà, j'ai créé un personnage, je prends un acteur qui a priori me semble correspondre. Après, non, Anthony Bajon, oui, il a une espèce de pudeur, mais c'est absolument pas doc dans la vie. Tu lui dis un truc qui lui va pas, il réagit direct. Galatea, elle peut avoir quelque chose. À la limite, c'est peut-être Galatea la plus proche du personnage dans la façon de réagir comme ça. Mais non, du coup, je suis hyper flatté quand on me dit « Putain, on dirait que c'est eux dans la vie.
» C'est juste que t'as bien fait ton taf.
Ils ont bien fait leur travail aussi, mais ça veut dire quoi, que l'harmonie entre la création du personnage, le choix de l'acteur et après la direction qu'on prend ensemble sur le plateau est la bonne. Donc ça, mais ça ne veut pas dire que c'est un travail documentaire non plus.
Non, mais justement, c'est intéressant ce que tu dis sur la précision des dialogues, sur la précision de la langue et ce que tu dis aussi sur les paysages. Parce qu'il y a, du coup, il y a une vraie volonté de faire de ces paysages périurbains des paysages de cinéma et de cette langue, une langue de cinéma, une langue de dialogue et du coup, quasiment une langue littéraire que tu as réussi à capter dans l'essence de ce que disent tes personnages.
Après, je répondrai à la question, mais ouais. Je veux finaliser le truc. C'est parce que On m'a beaucoup dit par rapport au fait qu'ils jouent un peu leur propre rôle. Je trouve que c'est vraiment, mais c'est pas de vous que je parle, mais je trouve que quand on réagit comme ça au film, c'est aussi des fois faire un peu injure au talent des comédiens.
Non, mais c'est vrai. Parce qu'on n'aime pas les comédiens, en fait.
Non, mais je dis pas que vous faites injure, mais je veux dire. Ouais, il y a un tel travail de rigueur autour de précision. On a travaillé comme des bœufs, on a répété des trucs, on s'est côtoyé pendant 2 ans avant et tout ça. Non, mais je parle pour Raphaël aussi et pas pour ce.
Au contraire, je pense que c'est. Je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je voulais dire, au contraire, c'est que j'avais l'impression, parce que en fait, le travail se sent, ça se sent que c'est écrit, etc. C'est plus que j'ai l'impression, et pour moi, c'est un vrai talent de metteur en scène de réussir ça. C'est-à-dire que tu as réussi à capter quelque chose qui nous semble une espèce de sincérité absolue, tout en étant évidemment que c'est des personnages de composition et qu'on les a vus dans des rôles extrêmement différents. Mais je trouve que quand on les voit à l'écran tous les trois interagir, moi j'y crois tellement que j'ai l'impression que t'as réussi à déceler quelque chose d'eux, comme si t'avais réussi à amener quelque chose d'eux qu'on n'a pas forcément encore vu, mais qui est une sincérité, quelque chose de vrai chez eux. C'est ça que j'essayais.
Mais en plus, j'étais pas du tout en train de. C'est pas du contre vous. Non, mais c'est vrai qu'autour de Raphaël, il y a tellement un truc de. Tiens, il fait du canard. Ouais. Alors que quand on voit finement son travail.
Entre Yannick et Chine Lacasse, il y a un monde.
Mais je pense qu'aussi, il y a tout le rapport qu'il a aux médias et tout ça. Donc il y a ce personnage-là. Mais c'est vrai que quand on voit même sur La Branche, Yannick, Cash, enfin tous les films qu'il a fait, je trouve qu'il y a un travail qui est hyper différent. Et donc je dis ça plutôt, c'est pas à vous que je dis faire injure, c'est plus quand je vois des fois le traitement qui est fait à cet acteur, je rappelle que c'est d'abord, avant d'être une nature, c'est un acharné de travail, c'est un des plus gros monstres de travail que je connais, et que tout ce qu'il fait dans Chien de la Casse, dans Yannick, dans tous les films, c'est un travail de rigueur, de précision.
Et c'est comme quand tu vois un excellent musicien jouer une partition et que ça a l'air tellement fluide et facile.
Ouais.
Mais qu'en fait, c'est impossible. Pour revenir à la question de Yuri, effectivement, sur la manière dont tu transformes effectivement ces zones qu'on voit pas forcément beaucoup au cinéma en vrai paysage de cinéma, je te cite carrément, et ce travail sur cette langue qu'effectivement on voit assez peu je trouve qu'on voit assez peu au cinéma, et notamment dans le cinéma français, on est habitué à quelque chose de beaucoup plus strictement littéraire, mais alors qu'en fait c'est une langue du réel qu'on entend beaucoup. Quelle était ton approche là-dessus, sur ces paysages et cette langue que tu filmes aussi?
Je pense que les paysages, la langue, les décors, les costumes, le choix des comédiens, c'était tout. L'idée, c'était de se saisir du réel au scénario, c'est-à-dire dans la structure dramatique, dans les liens entre les personnages. Je voulais qu'il y ait quelque chose de viscéralement réel et de vérace. À partir de là, l'idée, c'était d'avoir un décalage poétique, toujours pour avoir un point de vue là-dessus, c'est-à-dire les décors qui évoque le western, notamment la plaine, les intérieurs ou les couleurs, la façon dont sont chargés les décors, raconte quelque chose, les couleurs des personnages, le choix justement d'avoir un quenard, un bajon, et non pas des noms professionnels tels qu'on pouvait l'attendre dans un film comme ça, c'était de faire de ces personnages des figures, qui est quelque chose.
Et même du chien qui devient lui-même une sorte de silhouette qui fait partie complètement de ce trio.
Le quatrième personnage,
ouais, c'est ça, c'est pas le décor, c'est le chien. Puis c'était le chien, c'est l'élément métaphorique, allégorique même du film, et je voulais l'assumer jusqu'au bout. Et
ah, et des gens,
deux fois que ça tombe, ça. Ouais.
Tant que ça tombe pas sur nous. Je voulais parler un peu de la musique de Delphine Alocena, qui est hyper intéressante, justement, qui est très en contrepoint, je trouve, de ce qu'on a l'habitude de voir aussi dans des films français, qui va beaucoup plus aller travailler des sonorités de cordes, de chœurs, avec comme ça justement quelque chose de poétique. Et ce que tu dis est assez. M'évoque justement ce travail sur la musique. Comment s'est passé le travail avec elle pour justement trouver cette bande-son? En effet, parfois très onirique, très en décalage avec une rugosité un peu plus naturaliste.
Bah, la musique participait de cette idée de déréaliser et de mettre en scène avec un point de vue un peu décalé. Bah, j'ai rencontré Delphine longtemps, enfin, au début du processus d'écriture, presque, je pense, ça faisait même pas un an que j'écrivais. Et on a élaboré ensemble cette idée d'avoir une musique assez lyrique avec un thème qui se mue un peu pendant le film et qui soit un thème qui revient pour presque faire surgir le lyrisme des personnages. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans la pudeur, dans la retenue, et même Raphaël, quand il parle, il ne dit pas ses émotions. Ils n'arrivent pas à sortir, et la musique venait non seulement déréaliser le film, on n'est pas dans le film d'auteur à l'épaule sans musique, et...
Je ne visais pas du tout ce genre de film.
Non, moi non plus. Je dis juste, voilà.
On voit beaucoup pour la radio.
Et c'était l'idée de faire un frottement entre la pudeur et bon, les gars, lâchez l'échelle, ouais, machin. Ouais. Vous êtes sensibles. Ouais. Donc cette musique-là était là pour ça. Et le violoncelle et la voix, c'est moi qui l'ai imposé à Delphine après avoir entendu un concert de Vocello, qui est l'alliance du violoncelle et du chœur. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'hyper classique et en même temps de absolument jamais entendu, et le violoncelle, c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine, et vu qu'il y a un gros travail sur les dialogues et sur les voix, même Dominique Raymond, la voix de Raphaël, la voix de Dominique, la voix d'Anthony, je choisis aussi les acteurs pour leur voix ou les actrices pour leur voix, donc c'était important que ça cohabite comme ça, et le violoncelle me semblait le meilleur instrument. Et il y a quelque chose de judéo-chrétien aussi dans le film, c'est un film de village, il y a cette trinité presque, enfin trinité, Judas, Jésus, Marie-Madeleine, c'est pas la trinité mais vous m'avez compris, avec l'histoire de la trahison, enfin il y a quelque chose comme ça, et les chœurs évoquaient quelque chose un peu de christique qui m'intéressait.
Et tu nous disais tout à l'heure que ce qui t'avait amené effectivement au projet, c'était en tout cas l'idée aussi de représenter ce monde que tu connais, que tu vois assez peu dans le cinéma français. Mais j'étais curieuse aussi de savoir quelles étaient tes influences de cinéma, peut-être les cinéastes qui t'ont forgé. On parlait de western. Est-ce que par exemple le western américain ou italien ou espagnol d'ailleurs ont été des influences pour Chien de la Casse?
Pour Chien de la Casse, moi en fait je suis devenu cinéphile, si tant est que je le sois, très tard. J'ai pas du tout été bercé par des films petits, enfin c'était pas du tout mon milieu ni mon univers. Et après je pense que j'ai vu beaucoup beaucoup de films et qu'au moment de faire Chien de la Casse j'ai un peu coupé le cordon. Donc là j'écris un nouveau film, j'ai plein d'influences, je viens vraiment puiser des films et en extraire... des influences. Au moment de Chien de la Casse, je pense que pas grand chose de cinéma ont influencé. J'ai beaucoup plutôt lu, écouté de la musique, lu de la philo, des romans, vu du théâtre, de la danse, des choses comme ça. Et j'ai essayé au contraire de couper. Après, pendant l'écriture, j'ai toutefois vu des films, mais plutôt anciens, genre des Stromboli, des Mean Street.
Et de Scorsese, ouais.
Après, pour la fabrication du film avec le chef opérateur ou Delphine, on a plutôt parlé de films américains, ouais, du cinéma indépendant américain, des films de James Gray, tu vois, Little, ouais, Odessa, ouais. Même les films de Villeneuve pour la lumière ou pour,
ouais,
le,
ah bah oui, oui, oui,
pour le courage des décors, on, ouais, va dire, ouais, c'est-à-dire Villeneuve, il peut te dire le mec il habite en HLM et puis il a une baie vitrée de 20 mètres,
ouais.
Mais parce qu'en fait c'est plus payant à l'image, parce que ça raconte quelque chose, le corps, l'espace, on voit la ville derrière. Bon, bah, c'est un peu faux, mais ça donne quelque chose de, en profondeur, beaucoup plus juste. Et donc, pour se donner du courage, on disait, tiens, on repensait à des films de Denis Villeneuve en se disant, bon, c'est un peu faux. Évidemment, il va pas promener son chien, il va pas faire une heure de bagnole pour promener son chien sur une plaine sublime alors qu'il peut le faire en bas de chez lui dans les vignes. Allez, on s'en fout, Villeneuve, il aurait fait ça. On fait ça. Donc, il y avait ce courage des Américains de faire faux.
Ouais. Et donc la lumière de Deakins, par exemple, a été une influence.
De Roger Deakins, complètement, ouais.
Ouais. Bah ouais, maintenant que tu le dis, effectivement, le traitement des jaunes, etc., je vois complètement.
Bah de Deakins, c'est après, on est allé puiser dans la peinture contemporaine, notamment un peintre qui s'appelle Guillaume Bresson.
Ouais.
Et qui travaille un peu à la façon de Poussin des peintures hyper contemporaines. Et la lumière est sur ses extérieurs nuit ou sur ses intérieurs jour. Travaille très bien en dégradé. En fait, c'est doux et dur à la fois. et ça éclaire toujours le décor avant les personnages. Et vu que c'est le décor qui met en valeur les personnages et qui les enfante, c'était cette idée-là aussi.
Et puisqu'on parle d'influence aussi américaine et que tu parlais de romans, en regardant le film, j'ai beaucoup pensé à un monument de la culture américaine qui est Sur la route, de Jack Kerouac. Est-ce que c'était une des influences ou quels étaient les romans peut-être qui ont participé à l'écriture ?
Bah, pas du tout, je ne l'ai pas encore lu.
Ah tiens ! Bah, je pense que ça devrait te parler alors.
Bah, j'ai découvert Herman Hesse pendant que j'écrivais Chien de la casse et je pense que son rapport à l'amitié d'Emian.
D'où le Steppenwolf, hein, le loup des plaines.
Ouais. Bah, à la base, j'avais mis Martin Eden avec okay. De Jack London. Je trouvais ça fascinant, cette espèce de mec qui s'élève par la culture pour choper. Et le personnage, j'avais l'impression que Miralles était une potentielle Martin Eden, mais ça l'a amené à un endroit qui ne m'intéressait pas. Et après, ouais, non, je pense que le loup des steppes et Demian, vraiment les deux amis de Demian, avec l'idée du démon aussi. Je trouve ça hyper beau. Et y a des livres de Romain Gary qui m'ont touché aussi. Chien blanc.
Ouais.
Ça a l'air d'avoir rien à voir, mais l'idée de rééduquer comme ça. Et puis, y a des incursions un peu documentaires qui sont hyper fortes. Et Les noces barbares de Yann Kefelek aussi. Comment tu fabriques quelqu'un en le harcelant et en lui martelant que c'est ça. Dans l'idée de... Mais après, non, il y a eu aussi des films français que je trouve hyper intéressants. La meilleure façon de marcher avec Bouchité et Devers. Je pense que Miralles, il emprunte beaucoup à ce personnage de Devers. Les Bliés aussi. Les références, elles, c'était hyper... les références... En tout cas, les films comme ça qui viennent consteller... Non, mais
c'est intéressant que ce soit effectivement c'est une constellation de références qui, a priori...
Parce que je ne suis pas cinéphile à la base, et du coup, il y a un truc où je ne suis pas puriste d'un genre. Mmh. Et donc, moi, je te dis, Dick Henneck, ça a pu autant influencer qu'Un Blié, que La Tour Montparnasse Infernale, que Little Odessa, ou que le film de Chloé Zhao aussi,
The Rider,
tu vois. Tuerie absolue. Shotgun Story de James Nichols.
Jeff Nichols.
Exceptionnel. Dans ce truc de village là, qui part en cacahuète. Donc elles sont tellement éparses les influences. Mais ça, c'était presque des influences avant même de me dire tiens, je vais faire Chien de la casse et voilà, c'est ça.
Et puisqu'on a le temps, je pense pour une dernière question, tu as évoqué donc ton second long métrage, évidemment.
Il me regarde de travers.
Et bon, je vais pas te demander évidemment parce que c'est un processus long, etc. Mais est-ce que tu travailles les mêmes thématiques ou tu disais que tu avais des influences ou des films de chevet peut-être en écrivant ce second long métrage?
Après j'ai l'impression que les points communs, j'en suis à peine conscient. Il y a toujours l'idée de l'amour. Je pense que c'est des personnages qui ont plein d'amour en eux et qui savent pas l'expulser de manière adroite, on va dire. Donc ça parle d'un rapport homme-femme, de la vulnérabilité masculine. Je pense que si on veut faire un lien, ça pourrait être Doc 10 ans après, quoi. Donc c'est un espèce de 40 ans toujours puceau dans l'univers des petits villages du foot amateur et du vin, d'un mec qui a un rapport aux femmes très abîmé, qui est hyper maladroit, qui n'a pas les codes et qui a une quarantaine d'années. Et ça va être son parcours initiatique amoureux un peu tardif. Et c'est Taxi Driver, je pense, s'il y a une influence majeure. Taxi Driver...
Dans le milieu du foot amateur et du vin.
Ouais.
Je pense que c'est une bonne fin.
La Belle et la Bête, Taxi Driver, pour mélanger les machins.
Excellent. Eh ben, merci beaucoup Jean-Baptiste Durand, merci de nous avoir accordé cette interview.
On vous encourage de manière générale tous à regarder des courts-métrages.
Ah oui, à en faire et en regarder.
Pardon, en faire et en regarder.
Pour les cinéastes qui nous écoutent.
Merci beaucoup.
Merci.